Ça vaut le détour.
Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 3 mai 2016. Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour. Merci de nous accompagner une nouvelle fois ce midi. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Je vous invite à nous rejoindre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter avec @canal_m. Vous pouvez en tout temps nous soumettre des sujets qui vous touchent ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul, pour notre chronique mensuelle Tourisme accessible. Elle vient nous présenter les dernières adresses ajoutées à la route accessible pour quelques idées de sortie à faire cet été. Elle sera dans nos studios à 12h45. Aussi, Laurence Parent, doctorante en sciences sociales à l'Université Concordia et aussi membre du comité organisateur du symposium Invitation au mouvement, émergence des perspectives et pratiques handicapées et sourdes, qui aura lieu les 4 et 5 mai 2016 à l'Université Concordia. Le symposium est l'occasion pour les chercheurs, activistes et artistes du Québec et d'ailleurs de se réunir pour discuter de l'émergence et de la croissance des mouvements faisant la promotion de l'accessibilité et de la justice sociale. Mais d'abord, on accueille un organisme présent dans la vie de nombreuses personnes handicapées depuis 35 ans. Leur dévouement permet à plusieurs personnes de retrouver une autonomie qu'elles ont parfois perdue et de favoriser leur inclusion sociale à tous les niveaux. Canal M est très heureuse d'accueillir M. Nicolas Saint-Pierre, directeur général de MIRA. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
On va y aller d'abord. MIRA, on connaît surtout de nom, c'est présent dans notre société depuis longtemps. Par contre, on connaît pas toujours bien l'organisme. Je vous demanderais de nous faire un petit historique.
MIRA, ça vient d'une passion pour les chiens que mon père avait. Au début des années 80, puis à l'époque, les personnes aveugles n'avaient pas de, il n'y avait pas de service au Canada en français. Donc, lui était un passionné de chiens, il entraînait des chiens pour les personnes privées et tout ça. Puis à un moment donné, il y a une personne à Québec qui l'a contacté, qui avait des problèmes avec son chien américain. Puis il est allé voir ça, puis le coup de foudre s'est passé. Donc, la curiosité... de comment fonctionne un chien pour les personnes aveugles, tout ça, comme sorti, ça a été comme le cœur y a explosé pour cette cause-là, de voir ça, puis surtout de jumeler la passion des chiens avec une vraie utilité pour vraiment faire du sens pour des gens handicapés dans la vie. Donc ça a été ça, puis ça a commencé vraiment tranquillement. On avait une petite maison, on avait un chenil, il faisait de l'obéissance de base à l'époque, puis là, il a tout lâché ça. On a commencé à vendre des petites pines en plastique, écrit MIRA dessus. On a fait le tour des centres d'achat. Le monde ne nous connaissait pas. Moi, j'étais tout petit. J'avais à peu près, je pense, j'avais 7 ou 8 ans. Puis j'avais la coupe Longueuil. Fait que tout le monde me disait, hey, non, mais belle, cette petite fille-là. Mais moi, j'avais un bandeau. J'essayais les chiens de mon père dans les centres d'achat. Puis bon, ça a commencé comme ça. Puis tranquillement, l'expertise s'est développée. L'association avec l'INLB, Carole Zabiello puis Hélène Guérette, qui étaient deux instructeurs jeunes à l'époque d'ONM, partis avec ce projet-là d'essayer d'améliorer de comment on donne des chiens guides aux personnes aveugles, comment on les prépare en amont, avant d'avoir des chiens. Toutes les habiletés qu'il faut requiert avoir un chien guide avant de partir avec un chien, les classes, comment on attribue les chiens. Après ça, bien évidemment, tout le côté de l'élevage, l'amélioration de notre élevage, nos chiens. Fait que ça a parti comme ça, puis ça a été vraiment une brique à la fois que ça s'est construit, cette organisation-là.
Mais vous, ça fait vraiment partie de votre vie, en fait, depuis très longtemps.
Oui, moi, mon parfum, c'est Chanel numéro 5.
C'est une bonne blague.
Ah ouais, pas pire.
J'aime bien. Quelle est l'origine du nom Mira? Pourquoi avoir choisi ce nom?
C'est un des premiers chiens qu'on a entraîné qui s'appelait Mirabelle. Puis les entraîneurs, on a toutes la même maladie. On finit toujours par couper les noms des chiens en deux. Donc, mon père entraînait Mirabelle, mais il l'appelle tout le temps Mira. Puis ça a été comme un hasard de s'apercevoir aussi que Mira, ça voulait dire « regarde ». Donc, en espagnol. Donc, ça a été ça. Ça a été vraiment un concours de circonstances aussi banal que ça.
Mais qui a vraiment été efficace, ouais, on peut dire. Le hasard a très bien fait les choses. Mira, donc, présent au Québec depuis le début des années 80. Est-ce que c'est partout dans le Québec qu'on trouve des bureaux? Ou comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un centre d'entraînement pour les chiens à un seul endroit?
Ben oui, le centre d'entraînement est à Sainte-Madeleine, sur la rive sud de Montréal, entre Saint-Hyacinthe et Saint-Hilaire, si ça peut être un peu plus précis. Puis, on a comme... C'est vraiment là que tout l'entraînement, l'élevage, où est-ce que les familles d'accueil viennent chercher les chiots, tout ça, les bureaux, vraiment, la maison mère est là. On a aussi des installations à Québec, un entrepôt pour les cartouches d'imprimantes usagées qu'on récolte, qu'on fait à la cueillette à travers le Québec. C'est une façon de se financer. Puis ça, c'est vraiment un bureau de financement. Puis strictement, vraiment construit pour les cartouches d'imprimantes usagées.
Et par exemple, les résidents, est-ce que les résidents de tout le Québec peuvent vous contacter pour avoir un chien guide?
Absolument. Québec, Canada, là, on n'a pas de frontières, on n'a pas de limites. On a des chiens, on a donné des chiens en Alberta, on a quelques chiens en Ontario. On a aussi quelques chiens dans les maritimes. Donc, nous, on n'est pas... c'est bien rare qu'on dit « Non, tu viens du Manitoba, puis on ne te servira pas. Mm-hmm. » La plupart du temps, c'est plus le contraire. Il y a d'autres écoles, quand même, au Canada, anglophones, puis il y a une limite naturelle qui est... Les anglophones sont un peu plus frileux de venir au Québec pour avoir un chien en français, mais pourtant, on peut très bien les servir en anglais. Puis les chiens, ça ne dérange pas qu'on parle français ou anglais. Là, ça n'a pas vraiment d'importance pour la qualité du travail des chiens et l'efficacité.
OK. C'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte lors de l'apprentissage.
Non, absolument pas.
Et comment ça se passe, justement, cette formation pour les chiens? Combien de temps ça dure?
Bien, les chiens guides, on les entraîne pendant 6 mois. Mais tout le processus est un peu plus long parce que, bon, les chiens, ils partent en famille d'accueil. Ils ont 9 semaines. Ces chiens-là sont suivis pendant une année par nous. Évidemment, ils viennent se faire radiographier à l'âge de 6 mois. Ils reviennent en 1 an. Entre ça, il y a quelques rencontres de comportement. Si ton chien est un peu plus difficile à manipuler, à avoir, à vivre avec, bon, ben, nous, on essaie d'encadrer le plus possible ces familles bénévoles-là. Parce qu'il faut le dire, sont bénévoles. Puis bon, c'est ça. Fait que là, ça, c'est toute la première année de vie du chien. Ensuite, on les évalue, ces chiens-là, on les regarde on a une base d'évaluation qui est assez stricte et vraiment tout bien ordonnée. On regarde ces chiens-là, la qualité, on regarde la qualité de leur tempérament, on regarde la qualité de leur état physique aussi, si c'est des chiens qui ont des boiteries, pas de boiteries, ils peuvent avoir des maladies et tout ça. Puis quand que tout ça est passé, mais là, on sélectionne les meilleurs candidats pour chaque programme. Donc, là, après ça, mon programme d'entraînement, c'est de chien guide. Spécifiquement, c'est 6 mois. Un vrai 6 mois d'entraînement. Donc, c'est assez long, c'est fastidieux, mais c'est très, très bien organisé. On a des blocs d'entraînement. Au niveau du temps d'entraînement, c'est assez bien construit. On est capable de dire quand même si ça reste qu'on travaille avec du vivant, il faut quand même dire qu'on est dans un... On a quand même une bonne idée de l'échelle puis du temps qu'on a pour entraîner nos chiens, là.
Et quelle race de chien est-ce que à qui vous faites affaire ou utilisez?
Non, mais c'est vrai, c'est ça aussi. Là, on travaille beaucoup avec le Labrador, le Bouvier bernois moins qu'avant, mais on a vraiment évolué sur notre croisement qui est le Bouvier bernois-Labrador, qu'aujourd'hui on appelle le Saint-Pierre, qui est un chien que ça fait, je pourrais dire, ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille dessus. Au début, c'était le boulab. Puis finalement, on s'est mis à croiser les boulabs ensemble. Puis tranquillement, il y a eu le labernois. Le labernois est devenu le Saint-Pierre. Donc, on est encore dans un work in progress, là. Le chien, il est mieux qu'il était avant. C'est un chien qui est extrêmement intelligent, qui a retiré les qualités des deux races d'une façon assez exceptionnelle. C'est un beau hasard, mais ils sont pas parfaits. Puis, mais ça s'en va quand même très bien. On a des chiens qui sont exceptionnels. Puis, tu sais, ça reste des chiens. Hein. À un moment donné, on n'est pas capable de prévoir la vie.
Absolument.
Mais en gros, on a une bonne moyenne au bâton quand même. Là.
Mais il y a certains traits de caractère que vous recherchez, justement, oui. Vu ce que vous évaluez les chiens à 6 mois, à 1 an, plus tard.
Mais on garde, tu sais, premièrement, il ne faut pas que ça soit agressif, les chiens. Il faut que ce soit des chiens qui sont calmes. C'est des chiens, normalement, qui ont une vie qui sont... dans une vie qui est plus urbaine ou très sociale. Donc, c'est des chiens, il faut qu'ils soient sécuritaires pour les utilisateurs et pour les gens qui entourent les utilisateurs. Ensuite, bon, évidemment, on ne veut pas de peur, on ne veut pas de chiens qui sont trop attirés vers les autres animaux, naturellement. Donc, l'activité, pas trop excité. Donc, tout ça mélangé ensemble, ça fait qu'on essaie de trouver les meilleurs candidats possibles pour partir sur le line-up d'entraînement.
Mira a remis plus de 2000 chiens d'assistance, ouais. Des chiens guides, depuis sa fondation. Ça représente beaucoup d'argent parce qu'il faut le dire, vous les remettez gratuitement aux
Absolument.
Gens qui en ont besoin. Et former un chien, ça coûte 30 000 $.
Oui, environ 30 000.
Donc, on parle d'un total jusqu'à maintenant de 60 millions.
Mais ça a du bon sens.
Même.
Depuis 80, ça fait 35 ans qu'on en donne. Évidemment, au début, ça n'a pas commencé qu'on s'est mis à donner 45 chiens par année. Là, ça a commencé par 3, 6, 8, 12. Puis après ça, on est tombé dans une genre de vitesse de croisière qui était environ d'une quarantaine par année pendant plusieurs années, mais qui était des chiens guides.
Mm-hmm.
Puis là, les autres programmes sont apparus tranquillement parce que, bon, les autres programmes, on a eu des demandes, puis... on produisait plus de chiens. Puis, il y avait des bons chiens qu'on prenait pas comme chien guide parce qu'il y avait des petites affaires qu'on n'aimait pas, genre pas trop d'activité, trop actif ou trop excité, des petites peurs, mais qui sont pas majeures pour quelqu'un qui voit, qui peuvent être majeures pour quelqu'un qui voit pas. Donc, là, on s'est mis à travailler et à développer le programme des chiens d'assistance.
Justement, les chiens d'assistance, c'est cette diversité, en fait, de programmes. On va en parler tout de suite après avoir pris une petite pause musicale. Mais juste avant d'y aller, je voulais qu'on aborde cet aspect du financement, qui est quand même très, très important.
C'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre pour de nombreux organismes, mais particulièrement vous, vous n'avez pas de subvention gouvernementale.
Non, on n'a aucune subvention. On n'a jamais été dans aucun programme gouvernemental pour se financer, ni pour construire les hébergements, ni pour aucun programme.
Absolument.
Pourquoi? Ah, différentes raisons. Au niveau... Quand mon père était à la barre, lui, il avait pas envie de travailler avec le gouvernement parce que c'est fastidieux, parce que faut que, bon, disons que tu vas chercher un financement, donc faut que tu remplisses des rapports, faut que tu rentres des comptes, finalement.
Mm-hmm.
Ce qui enlevait beaucoup, beaucoup de latitude et de liberté dans la créativité qu'on avait à l'époque. Quand on a commencé à donner des chiens aux enfants, personne ne faisait ça dans le monde au début des années 90. Donc, je pense que c'est vraiment un choix de pouvoir garder notre liberté puis d'avoir complètement notre identité qui nous est propre, là.
Donc, c'est
un choix stratégique. C'est un choix stratégique, mais en même temps, ça reste quand même que ça ne veut pas dire que la côte est plus facile à monter, là, on s'entend. Mais je crois qu'on s'en tire très bien. Puis la communauté nous supporte tellement d'une façon exceptionnelle que je pense que c'est juste à nous d'avoir des beaux projets, d'arriver avec de la créativité. Le monde des affaires nous supporte. C'est juste d'arriver avec des bons projets. Puis d'avoir des gens qui arrivent avec des opportunités. Puis. C'est sûr que ça prend du monde généreux, qui donne du temps, du bénévolat, de permettre d'avoir des connexions aussi. C'est ça qu'il faut, hein. Faut que tu rencontres du monde qui ont des clés pour te débarrer des portes que des fois tu n'es pas capable de débarrer après plusieurs années. Puis là, whoop, tu rencontres la bonne personne. Puis tu peux débloquer des projets que ça fait longtemps qu'on planche dessus.
On va continuer à parler de ces projets justement en musique. On revient avec Nicolas Saint-Pierre, directeur général de Mira. Restez avec nous. Se réveille. c'est Amélie avec L'amour ado tiré de son album Les Éclats, paru en 2016. Petite pièce de la scène francophone, vous pourrez la voir en spectacle au Francofolie. Donc on continue, on a toujours Nicolas Saint-Pierre, directeur général de l'organisme MIRA, avec nous dans nos studios. On parlait en première partie d'émission, en fait, on a vraiment fait un portrait global de MIRA, du fonctionnement de MIRA, de sa fondation. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur les différents programmes, surtout ceux qui ont émergé dans les dernières années. On sait que d'abord, ça a été créé pour vraiment entraîner des chiens guides pour servir de yeux, finalement, aux personnes malvoyantes. Mais il y a aussi d'autres fonctions que les chiens peuvent remplir.
Oui, c'est ça. Comme je disais plus tôt, on produisait quand même beaucoup de chiens guides. Puis on avait comme des chiens qui étaient rejetés des programmes. Puis on trouvait que c'était un peu dommage. Puis à l'époque, il y a quelqu'un qui nous a approché, un paraplégique. Raymond Barry. Puis il est venu chez nous, puis il a dit: moi, j'aimerais ça avoir un chien qui m'aide à tirer mon fauteuil. J'aimerais ça, me promener, c'est pas cyclable, tout ça. Moi, intéressant, pourquoi pas? Nous, on était tellement focus sur le chien guide. Tout le campus au complet, la fondation, il est monté comme vraiment pour les chiens guides. Les trottoirs autour du chenil, des fausses traverses, des quatre coins. Des bonnes fontaines, des fausses bonnes fontaines, des fausses, tu sais, des faux ménoles, tu sais.
Fait que... Une mini-ville.
Oui, parce que tout notre entraînement, on l'a fait avant d'aller en ville. Les chiens, ils comprennent de quoi on parle quand on rentre en ville. On entraîne tout sur le site avant. Donc on a commencé ça, tranquillement, puis on aimait ça. On a surtout aimé les sourires qu'on voyait dans la figure des gens qui essayaient ces chiens-là, puis... tranquillement, mais on a construit ce programme-là. Mais à l'époque, les chiens tiraient à gauche. C'était un peu n'importe quoi. C'était des vieux harnais de chiens guides qu'on essayait de mettre un peu efficace pour les chiens d'assistance. On a même essayé des harnais de chiens de traîneau. On a vraiment
beaucoup,
exploré.
Beaucoup
d'essais. Oui, absolument. Puis, mais beaucoup de plaisir. Puis, tranquillement, mais là, les fonctions ont commencé à se peaufiner, les demandes aussi. Les gens disaient: ah, moi, j'aimerais savoir un chien comme ci, comme ça. Puis, avec le temps, on s'est ramassé avec des gens qui ont des maladies dégénératives, qui viennent chercher des chiens chez nous, des gens qui ont de la sclérose, qui ont des bonnes journées, mauvaises journées, qui ont besoin d'un chien pour marcher des journées, d'autres journées qui sont avec leur fauteuil. Puis le chien est juste à côté d'eux. Après ça, ben tranquillement, des gens qui viennent en fauteuil roulant électrique, qui ont besoin d'avoir des rapports d'objets, d'avoir de l'aide pour enlever les chandails.
Le chien peut aider à retirer une veste.
Ouais, c'est ça. C'est un coup que tu apprends à prendre. Le chien, il apprend à prendre. Bon, c'est facile quand même d'enseigner ça au chien. Donc, tout ça, c'est tout. Il y a eu une ébullition de créativité là-dedans. Puis tranquillement, mais on a peaufiné le programme. On a construit un hébergement qui était adapté pour les personnes en chaise roulante parce qu'à l'époque, on n'avait pas ça. On était dans un hébergement chien guide qui était fait pour du monde qui marche, pas du monde qui sont en fauteuil. Donc, on a construit un hébergement pour les personnes handicapées physiques avec des gros corridors. Étant donné que l'hiver, c'est beaucoup plus difficile pour eux, on a fait des gros... Il est un peu construit dans l'idée du chenil. Donc, c'est des grands corridors, des grands espaces qu'on est capable de travailler à l'intérieur puis couvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec les chiens avant d'aller dehors. Donc, ça a été fait. Puis, mais là, aujourd'hui, on est rendu qu'on en donne environ 60 par année. Puis, c'est un programme qui est majeur.
Est-ce que ça a pris plus de place que les chiens guides?
Ouais, là, en ce moment...
La demande est plus grande?
Oui, la demande est plus grande. Puis, mais c'est normal, il y a plus de gens en fauteuil que de personnes aveugles au Québec, là. Donc, effectivement, il y a plus de gens qui sont intéressés à avoir ces chiens-là pour leur donner un coup de main, là.
Il y a aussi le rôle du chien d'assistance pour les enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme.
Ouais.
Comment ça se passe, ce lien-là aussi entre les enfants et les chiens?
Ça, c'est un programme qui ça fait à peu près une dizaine d'années qui existe. Puis ça aussi, c'est encore une autre exploration, demande d'un parent qui est venu voir Noël Champagne, qui est psychologue chez nous, puis qui avait un enfant qui est autiste, puis il dit: moi, j'aimerais ça peut-être un chien, ça me donnerait peut-être un coup de main. Puis encore là, on produisait des chiens, puis on en avait qui étaient comme disponibles. Ou à place de les redonner aux familles d'accueil ou de les vendre au grand public, mais on aime bien mieux les utiliser puis qu'ils servent à quelque chose, nos chiens.
Mm-hmm.
Donc, ça a été ça. Puis on s'est mis à explorer ça avec ces parents-là. Et puis on, là, on a observé qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se passait entre le chien et les enfants. On appelle ça le spectre de l'autisme parce que le spectre est énorme. Il y a du mm-hmm. monde qui sont plus sévères, il y en a qui sont légers. On s'est aperçu que, ben, au début, la grosse, grosse, grosse affaire, c'était le sommeil pour la famille. Les enfants avaient tendance à vraiment dormir plus ou avoir le goût d'aller dans leur chambre, se coucher avec leur chien, contrairement à avant que c'était à coup de 2 heures, à coup de demi-heure, à coup de ça, que les parents étaient obligés de se lever durant la nuit, mais pas juste la première, deuxième année des enfants, des petits bébés, mais mm-hmm. jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Donc, moi, je me rappelle qu'une mère nous a dit, moi, je me rappelle, le 29 octobre 2007, mais c'était la première fois que j'ai passé ma première nuit. Donc là, quand t'entends ça, les parents sont fatigués, évidemment. Donc, quand t'entends ça, tu fais, oups, ça, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, c'est les parents qui ont fait que, comment on entraîne nos chiens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi l'utilité réelle. Puis, avec le temps, mais là, on s'est aperçu que... Mais il y a des enfants qui faisaient au niveau des routines, changer de leur routine, c'était épouvantable. C'était des crises épouvantables dans la voiture. Exemple, aller à l'école, il y a un chantier de construction, ils changent de chemin. Là, le petit mm-hmm. commence à crier dans le camion en arrière. Mais là, avec le chien, ça n'existait plus, ou très peu.
Mm-hmm.
Capable de sortir puis aller en vacances durant l'été. Donc, il y a vraiment eu ces effets-là. Puis le fait de pouvoir amener le chien dans les endroits publics, dans les restos, les enfants, ils restent calmes, plus calmes avec les chiens. Donc, ça a été ça qui a fait que, bon, on a dit, OK, on enclenche ce programme-là, on y croit.
On voit le rapport qui est bénéfique, justement, avec un animal.
Absolument.
Ce qui m'amène à parler, il nous reste quelques minutes, des chiens de réadaptation aussi qui sont là. On voit vraiment, justement, ce bénéfique de ce lien-là.
Ça, c'est bien. Ça fait un bout, ça aussi, que ça existe, mais on a vraiment comme poussé là-dessus un petit peu plus parce qu'on s'est aperçu que les physiothérapeutes avaient eu une ouverture par rapport à travailler avec ces chiens-là. Le chien de réadaptation, c'est un chien qu'un physio a à la maison, qui amène au département de physio d'un hôpital de réadaptation, puis qui amène le chien, puis il l'utilise pour les gens qui ont fait des anivrisses au cerveau, qui réapprennent à marcher, qui réapprennent à bouger, chercher des pourcentages au niveau de la motricité,
mm-hmm.
Flatter les chiens, donner des ordres aussi, des gens qui ont des problèmes d'élocution, de réapprendre à parler avec le chien, d'utiliser ça. Ça s'est passé à Sherbrooke avec Linda Rondeau. On a commencé à faire un chien de marche. Puis on s'est aperçu que le chien de marche avait vraiment des effets extraordinaires, contrairement pour réapprendre à marcher. Puis les gens marchaient avec une marchette. Initier le pas avec une marchette, c'était l'enfer.
Mm-hmm.
On leur mettait le chien à côté d'eux, puis ils se mettaient à marcher tout de suite. Fait que le déclencheur se passait d'une façon 10 fois plus rapide à cause du chien. Donc, c'est sûr que Linda, les physios ont dit « Attends, là, moi, j'en veux un dans mon centre de réadapt. » Puis ça a commencé comme ça. Puis là, on en a une quinzaine de placés à travers le Québec.
C'est vraiment fascinant. En terminant, Nicolas Saint-Pierre, si on veut avoir plus d'informations sur les différents programmes, si on est intéressé peut-être à avoir nous-mêmes un chien d'assistance ou tout simplement si on veut vous soutenir, comment on fait?
La première chose, pour les renseignements pour les programmes, c'est sûr qu'on peut aller sur le site web mira.ca. La bonne vieille façon de nous appeler au 450-795-3725. Vous appelez à la Fondation, vous demandez de l'information pour le programme, que ce soit pour devenir famille d'accueil, que ce soit pour avoir des informations au niveau du programme pour les enfants autistes, pour les chiens guides, pour les chiens d'assistance. C'est certain que c'est la meilleure façon de nous parler. Toutes nos activités de financement sont inscrites sur un calendrier sur notre site web. Si vous voulez nous encourager, ben vous avez simplement à nous contacter. Ou quand vous croisez des gens qui sollicitent, ben faites-nous un petit clin d'œil puis un petit deux pour deux yeux.
Merci beaucoup, Nicolas Saint-Pierre, directeur général de MIRA. Un grand merci d'être présent dans la vie d'autant de personnes en situation de handicap.
C'est un honneur. Beaucoup. C'est vraiment un honneur. Merci.
Merci d'avoir été avec nous.
Salut.
sur les ondes du Canal M. Vous écoutez « Ça vaut le détour » avec Maxime D. Pomerleau.
Bonjour à Ça vaut le détour. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic CVLD ou sur Twitter, @canal_M. Et je l'accueille en studio, Laurence Parent. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Parent, qui est candidate au doctorat en sciences sociales à l'Université Concordia et membre du comité organisateur du symposium Invitation au mouvement qui a lieu demain, qui démarre demain, le 4 mai. Donc, c'est le 4 et le 5 mai à Concordia. Avant d'entrer plus dans ce sujet du symposium, qui est une première, je crois, je vais d'abord t'inviter à nous présenter un peu, justement, ton champ d'études.
D'accord. Ben, en fait, officiellement, ça s'appelle « Humanities ». Et les gens me demandent toujours, ben, qu'est-ce que c'est, effectivement? Bonne question. Ben, dans ce programme-là, dans le fond, c'est très interdisciplinaire. Puis c'est aux intersections, je dirais, des arts et des sciences humaines. Donc, chaque étudiant ou étudiante fait son propre profil. Mm-hmm. Moi, je suis en communication, géographie et histoire. Donc, c'est un peu de tout. Puis, ben, dans le fond, mon doctorat, ce qui compte beaucoup, c'est plus le projet de recherche.
Oui.
Donc, les cours en tant que tels, c'est une chose, là, mais moi, je fais une recherche sur la mobilité des personnes handicapées à Montréal et à New York. Je m'intéresse principalement à la notion de « wheeling », donc de rouler, mm-hmm. parce que ben, moi, je me déplace en fauteuil roulant. Donc, les entrevues que j'ai faites avec des personnes handicapées à Montréal et à New York, mais je les ai faites évidemment dans mon fauteuil roulant. En marche dans la ville, donc qu'est-ce que ça veut dire de faire une entrevue quand on est mobile en fauteuil roulant?
Mm-hmm. Et donc, tu es là-dedans, tu es dans ce projet de doctorat-là. Et comme si ce n'était pas assez de travail, on décide aussi de faire partie du comité organisateur d'un symposium.
Oui, mais en fait, ben, je ne sais pas si c'est pertinent d'aborder ça de cet angle-là, mais moi, j'ai fait une maîtrise en Disability Studies, donc en études sur le handicap à Toronto. Puis, je suis revenue à Montréal principalement parce que les loyers étaient plus accessibles et moins chers. Mm-hmm. Mais il n'y avait pas de programme d'études sur le handicap à Montréal. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des profs qui étaient intéressés. Donc, tranquillement, pas vite, on a commencé à faire des projets de recherche, des événements en lien avec le handicap dans une perspective critique et académique. Et en fait, le symposium, c'est de la suite des choses où graduellement, mm-hmm. à Concordia, on commence à vouloir un peu, dans le fond, provoquer l'émergence de cette discipline-là qui est assez répandue dans d'autres universités, dans d'autres provinces.
Donc, ce Disability Studies, qui est vraiment justement l'étude de la processus de production du handicap, si on veut,
d'un angle
sociologique.
Mm-hmm. Bien, c'est ça. Au Québec, on connaît bien le modèle de production, processus de production du handicap, qui est un modèle. Mais dans le fond, les études sur le handicap, il y a plusieurs théories. Donc, c'est comme un peu les études féministes où il va y avoir plusieurs courants de pensée. C'est la même chose sur le handicap. Puis dans le fond, aussi, peut-être quelque chose qui est important de retenir, c'est que c'est pas des études sur les personnes handicapées, mais sur le handicap comme phénomène social, politique, économique. Donc, souvent, mm-hmm. on pense aux études sur les personnes handicapées,
Aspect plus santé, oui. ou médical, mais là, c'est pas ça. On mm-hmm. met ça de côté et on se concentre davantage sur, justement, le social, en fait, du phénomène. Le symposium est organisé par le Community and Differential Mobilities Cluster. Peux-tu nous décrire cette organisation?
Oui, ben en fait, c'est ça, c'est des longs noms. Là. Ça vient juste d'être créé à Concordia parce qu'il y a un nouvel institut en art et en art médiatique, dans le fond, qui a vu le jour. Et ça, c'est un sous-groupe de cet institut-là. Et en fait, c'est plutôt le groupe de travail sur les études du handicap qui organise le symposium. Donc, voilà, tout est interrelié. Puis, c'est ça, dans le monde académique, il faut trouver des façons de s'allier, de faire des alliances pour faire avancer des projets. Donc, c'est un peu de là que tout ça vient. Mais essentiellement, c'est des étudiants, des profs, qui travaille à l'organisation de ce symposium-là, de cette conférence.
Oui, c'est ça, justement, mm-hmm. pour nos auditeurs qui seraient moins familiers avec le concept, c'est quoi la formule d'un symposium? Qu'est-ce qu'on y retrouve?
Mm-hmm. Bien, évidemment, c'est très académique dans un sens où les gens, bon, nous, dans le fond, à prime abord, on a lancé une invitation pour les gens qui veulent proposer des présentations qui peuvent être très académiques, mais également artistiques. Il y a des gens qui vont venir présenter des numéros de danse, par exemple, ou des films. Donc, je dirais que c'est comme à à la rencontre du grand public et du monde académique, qui n'est pas nécessairement toujours très accessible au grand public. Là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, c'est des présentations. Également, une conférence principale avec Simi Linton, qui est une artiste, une activiste handicapée qui vit à New York, qui est présentement dans les airs, en route vers Montréal, qui va venir faire une conférence. Donc, on peut penser à des grandes conférences. Ça, c'est assez accessible au grand public, je dirais. Puis, il y a également une projection de film demain soir, un film documentaire, mais vraiment pas besoin d'avoir quelques études que ce soit pour le voir. C'est vraiment un film très accessible sur la vie de Simi Linton et sur son engagement. Comment est-ce que, dans le fond, elle a découvert... qu'est-ce que ça voulait dire qu'être une femme handicapée? Elle, c'est une personne qui a eu un accident à l'âge de 20 ans dans les années 70. Donc, qu'est-ce que c'était que de vivre, se déplacer en fauteuil roulant à New York en 1975? Comment est-ce qu'elle a découvert l'aspect politique de son handicap et comment est-ce qu'elle a commencé à militer? Donc, voilà, un excellent film, Invitation to Dance.
Oui, justement, Invitation to Dance de Simi Linton et Christian von Tepelskirk.
Je sais pas exactement comment prononcer son nom, mais...
je crois que c'est ça, il y a beaucoup de consonnes. C'est demain, mercredi, le 4 mai, à 19h. Ça va être suivi d'un échange questions-réponses avec la cinéaste qui va être présente, l'artiste qui va être présent. Et mis à part, parce que ça, c'est une présentation en anglais, est-ce qu'il y a des présentations en français?
Oui, c'est vraiment un défi comme vous le savez, je suis francophone, j'étudie dans une université anglophone, c'est vraiment un défi de rendre les activités accessibles dans les deux langues. Donc, il y a trois présentations qui vont être en français, dont une sur l'histoire des enfants de la polio à Montréal, comment est-ce que l'enjeu a été perçu par les médias, donc une présentation historique très intéressante. Une autre de Véro Leduc, qui est une femme sourde qui a fait une bande dessinée en LSQ.
Donc on l'appelle la bande dessinée.
Exactement. Donc, Véro Leduc va venir présenter. C'est là également une personne, une jeune femme de France, Sarah Eussaf, qui va venir parler de comment est-ce que les arts peuvent, dans le fond, transmettre l'aspect politique du handicap, donc le modèle social du handicap, comment est-ce qu'il peut être véhiculé à travers les arts médiatiques.
Et ces invités... Comment est-ce que vous les avez découverts ou est-ce que ça a été un appel de projet, par exemple, ou ça a plus été vraiment selon les connexions qu'il y avait déjà à travers le réseau académique?
Bon, on a fait un appel de projet, effectivement, qu'on a fait circuler. La majorité des gens, c'est des gens qu'on connaît dans notre réseau. Puis, dans le fond, dans notre réseau à Concordia, il y a beaucoup de gens de Montréal, mais également Daniel Pierce, qui vient de l'Alberta, qui était venu faire un postdoc à Montréal. Donc, on a un grand réseau. Puis, par exemple, Sarah Eussaf de France, je crois qu'elle a vu l'invitation sur Facebook. Tu sais, avec les médias sociaux, ça voyage partout. Donc, c'est vraiment excitant. Tu sais, elle vient de France pour notre symposium. Donc, vraiment... très excitée
de recevoir ces invités de l'extérieur aussi. Est-ce que, côté logistique, on imagine bien que tout a été pensé pour l'accessibilité?
Oui, même si ça présente toujours des défis, c'est vraiment fascinant. Tous les événements vont être interprétés en LSQ, en ESL, parce que c'est un événement qui tend à être quadrilingue. Évidemment, les lieux, c'est à l'Université Concordia, donc accessible en fauteuil roulant. Et puis, le film va avoir le film est en anglais, avec des sous-titres en anglais. On a essayé de faire des sous-titres en français, mais pour des raisons de droit d'auteur, on n'a pas pu le faire. Donc, pour la francophone en moi, ça a été une petite déception. Puis, avec la vidéo description en anglais.
Bon, du moins accessible entièrement au public anglophone. Et donc, tous ces lieux sont accessibles. Est-ce qu'il y a moyen de voir les conférences en ligne, par exemple?
Oui, merci d'aborder cette question-là, parce qu'effectivement, on va avoir de la diffusion en ligne. Donc, si les gens vont sur le site du symposium, là, il y a un lien qui... ça va être diffusé via Twitter et via Periscope. On va tenter d'avoir les interprètes dans le champ de caméra. Il n'y aura pas de sous-titres, évidemment, en direct, là, mais on enregistre toutes les présentations qui seront par la suite sous-titrées et disponibles en ligne.
Donc, on garde des traces de ce premier symposium, justement, à l'Université Concordia.
Exactement, et on prend également des notes en direct sur un Google Doc. Donc, on fait tout ce qu'on peut, c'est ça, on use de notre créativité afin de rendre l'événement le plus accessible avec des moyens limité, mais on voit que c'est possible.
Tout à fait, absolument. Laurence Parent, comment est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce que c'est accessible à tout public?
Bon, oui, c'est accessible à tout public. Il y a juste un atelier que les gens devaient s'inscrire à l'avance. Malheureusement, il est trop tard, mais tous les autres événements sont ouverts au public. Et j'invite les gens à venir nous rejoindre demain à l'Université Concordia, qui est au 1515 Sainte-Catherine-Ouest à Montréal.
En terminant, Laurence, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il ressorte de ce symposium-là? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir vendredi matin?
Mm-hmm. Ben, en fait, on espère que tout le monde va avoir une belle expérience, premièrement. Puis je pense que c'est pour nous, comme je le disais au début, c'est de construire tranquillement, pas vite, de stimuler un intérêt pour les études du handicap au Québec. Je connais beaucoup, de plus en plus de gens qui quittent le Québec pour aller faire un programme à Toronto, pour aller faire un programme au Manitoba, en Colombie-Britannique. Ce serait le fun qu'à Montréal, on puisse développer un programme pour que les gens d'ailleurs viennent à Montréal, puis que les gens du Québec puissent étudier. On sait que ça représente des défis pour les personnes handicapées aussi de quitter la province, là, donc de rendre... c'est ça, de créer un champ d'études dans notre ville, ce serait vraiment génial. Là. Donc, c'est une étape.
Parfait. Ben, on vous souhaite un bon symposium, on vous souhaite un bon succès. Le symposium Invitation au mouvement, émergence des perspectives et pratiques handicapées et sourdes, qui aura lieu le 4 et 5 mai à l'Université Concordia. Laurence Parent, candidate au doctorat en Humanities à l'Université Concordia et membre du comité organisateur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Parce qu'on est qu'un
Alors, Chic Planète, on fait un petit retour dans les années 80 avec l'affaire Louis Trio. C'est tiré de leur album De Barclay à Barclay, parution de 1987. Ça fait quand même un petit moment. On termine notre émission aujourd'hui, en fait, avec notre chronique mensuelle de tourisme accessible. J'accueille dans les studios de Canal M Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu viens nous présenter les nouveautés de la route accessible.
Oui.
Mais avant d'entrer dans les détails, je t'invite à nous présenter tout d'abord ce qu'est la route accessible.
Je pense que les gens commencent à entendre parler de la route accessible un peu plus fréquemment parce que maintenant, ça fait 10 ans que ça existe. C'est un produit qui a été conçu à la base parce qu'on s'est rendu compte que les gens fouillaient à travers une base de données pour trouver quel endroit est accessible, quel endroit est partiellement accessible. Ça devenait compliqué. Donc, question de planifier un voyage sécuritaire, avec l'accessibilité assurée, c'était un outil qui était rendu nécessaire. Et donc, pour faire partie de la route accessible, il faut que ce soit des établissements d'abord complètement accessibles et qui ont accepté d'avoir leurs employés formés à l'accueil des personnes avec différents types de limitations. Donc, ce ne seront pas juste des endroits qui ont un lieu accessible, mais c'est des endroits aussi qui font le choix, qui ont envie d'accueillir cette clientèle-là et de bien le faire.
Mm-hmm.
Donc, on parle d'établissements qui ont signé un protocole avec Kéroul, puis on est sûr que les gens qui veulent se faire un parcours au Québec peuvent le faire sans casse-tête. Ça veut dire donc qu'il y a moins d'établissements que l'ensemble des établissements qu'on a évalués à travers les régions du Québec, mais c'est quand même 18 régions maintenant dans sa dernière édition. C'est plus de 300 établissements touristiques. Ça va inclure autant les hébergements, les attraits. On va mentionner quand il y a des lieux d'accueil touristiques pour avoir de l'information sur la région.
Mm-hmm.
Quand ils sont accessibles, ils vont en faire partie. Et on va bien sûr donner aussi des indices là, sur si on a besoin de location d'équipement, de transport dans la localité, des choses comme ça. L'information sera là aussi.
On a même de l'information sur le système de transport adapté, par exemple, ou l'accessibilité des taxis. Wow, c'est très utile. On peut prendre pour acquis qu'on se déplace beaucoup en voiture, mais une fois qu'on est à destination et qu'on a envie de découvrir la région, ça peut être une bonne option à envisager.
Oui, en fait, l'idée première, bien sûr, était de trouver des endroits qui sont accessibles sans se casser la tête dans un même lieu, mais aussi de faire des voyages de façon autonome. Parce qu'on entend parfois parler de groupes organisés, de façon de voyager là, plus à plusieurs, mais là, c'était vraiment l'idée de moi, là, en individu ou avec ma famille ou avec mon chum ou ma blonde, j'ai envie de visiter le Québec, mais je veux le faire sans me casser la tête. Donc, c'est bon, bien sûr, pour les gens du Québec qui veulent visiter le Québec, mais c'est aussi une façon d'attirer les gens de l'international, de leur dire, ben oui, vous pouvez partir de chez vous et venir au Québec puis avoir, vous planifier un voyage sans casse-tête. D'ailleurs, je pense que pour être toi-même une personne qui a déjà été à l'international, on aime bien partir avec une valeur sûre en termes d'accessibilité avant de partir.
Mm-hmm. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça rassure aussi en vue d'un voyage et c'est aussi accessible finalement à toute la famille. Parfois, ça va seulement être un membre de la famille qui va être en situation de handicap ou une personne âgée aussi qui commence à une perte d'autonomie. On veut quand même voyager. Donc, ce sont c'est un répertoire finalement de ressources accessibles. Il y a aussi une plateforme web interactive.
Oui, en fait, je suis tellement contente parce que j'étais là quand on a fait la première édition qui était simplement une version papier qu'on pouvait poster aux gens ou qui pouvait se procurer dans les différents centres d'information touristique. Mais maintenant, c'est une belle plateforme web avec des belles images. On n'a pas l'impression d'être dans le handicap typiquement ou dans la maladie ou tu sais l'espèce d'aspect des sites web parfois des organismes mm-hmm. qui défendent les droits des personnes handicapées où ça devient un peu neutre, un peu drabe. Là, on a vraiment des belles images, des belles suggestions d'escapades de 2 jours, d'une semaine avec des extraits vidéo où on peut voir le beau paysage. Ça fait qu'on voit pas juste l'accessibilité. L'accessibilité est toujours mise quand même de front, mais on a l'impression d'être vraiment sur un site touristique d'abord, mais qui nous rassure parce qu'on parle bien sûr d'endroits qui sont accessibles. Et on a une carte géolocalisée aussi pour se retrouver. On a possibilité de se faire ses propres itinéraires et de les imprimer ou d'utiliser des itinéraires qu'on aura préparés pour vous. Mais quelqu'un qui dit, ben moi, ça va pas nécessairement, il y a des choses dedans que j'aime, des choses que j'aime moins, mais tu peux toi-même faire ton propre itinéraire, tu peux l'imprimer, tu peux avoir accès sur toutes tes plateformes que tu vas utiliser sur un téléphone Android, sur les tablettes, etc. Donc, c'est quand même assez convivial, assez pratique, simple à utiliser. On peut faire des recherches sur des thématiques qui nous intéressent, comme moi, je veux ressortir tout ce qui est plein air, tout ce qui est culture ou peu importe, tout ce qui est plus familial, etc. Mais on peut aussi inclure des questions comme moi, je suis une personne qui se déplace en fauteuil motorisé, qui a besoin d'une chambre d'hôtel avec une douche au lieu d'un bain. Mais on peut faire cette recherche spécifique-là et on aura seulement ces endroits-là qui ressortiront. On a aussi mis des recherches qui peuvent se faire en fonction des gens qui auraient une déficience visuelle, une déficience auditive. Donc, tout ce qui est établissement qui offre des services pour ces personnes-là, on peut faire ressortir cette liste-là aussi. Donc, c'est assez varié, convivial et accueillant, je vous dirais, là, comme plateforme.
Mm-hmm. Combien de temps ça a pris à mettre en place cette plateforme?
C'est un travail de longue haleine qui a été, ça a commencé par un site web régulier. Ensuite, on y a ajouté des
options, des fonctionnalités.
Voilà. Maintenant, on a un nouveau site web qui a été conçu complètement. Donc, il a fallu apporter des gens de l'extérieur qui, eux, avaient l'expertise pour nous aider là-dedans. Fait qu'on apprend au fur et à mesure. Et encore aujourd'hui, on est content quand les gens nous écrivent pour des belles choses, mais on est content aussi quand on nous dit, écoutez, il y a telle chose qui ne fonctionne pas bien sur votre site web ou il manquerait telle chose sur votre site web. On veut s'améliorer et on veut répondre aux besoins. Nous, on ne peut pas répondre aux besoins si les gens ne nous disent pas ce qui va ou ce qui ne va pas.
Absolument, ça va dans les deux sens.
Donc, on invite vraiment les gens là, à communiquer avec nous pour nous le dire là, quand ça va bien puis quand ça va moins bien aussi.
Isabelle Ducharme, une nouveauté cette année, une région que vous nous conseillez beaucoup, les Îles-de-la-Madeleine.
Oui, en fait, les Îles-de-la-Madeleine, je pense qu'on a tous entendu parler cette année, surtout pour des malheurs avec le décès de M. Lapierre, mais c'est une belle région que les gens veulent visiter et on me pose souvent la question, oui, mais comment on s'y rend si on est en fauteuil roulant?
Faut prendre l'avion, oui. On n'a pas le choix.
En fait, il y a une croisière aussi, il y en a une qui part de Montréal, une qui part de Québec, et il y en a même une qui part de l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, il y a des options. C'est sûr que si vous avez un triporteur ou des fauteuils roulants beaucoup plus larges, ça devient un peu plus compliqué. Mais dès qu'on a un fauteuil manuel ou un fauteuil motorisé régulier, il y a les options pour le faire en avion ou le faire via une croisière qui peut être aussi très intéressante. Mm-hmm. Et rendu à destination, il y a quand même là, quelques gîtes, motels, restaurants très touristiques là, qui sont quand même assez bien adaptés. Et pour ceux qui auraient visité le site de la route accessible l'an dernier, bien, cette année, il y a 15 nouveaux établissements. Là. C'est quand même un bel ajout. Là.
Justement, est-ce que vous êtes en mesure de nous nommer quelques-uns de ces nouveaux établissements?
J'en ai pas qui me viennent en tête en ce moment, ça va pas bien, hein? J'ai un blanc total, mais
un magazine, ce nouveau magazine accessible, c'est d'avoir, en fait, c'est notre aide-mémoire.
Absolument.
À tous, on voit bien l'utilité.
L'utilité, d'ailleurs, je vous invite à procurer le document si vous êtes moins web, là. Il est aussi très beau.
Justement, si on veut avoir ces informations, si on préfère l'avoir par écrit, est-ce que c'est possible d'avoir une version braille, par exemple?
Il y a différentes options, gros caractères, il y a des façons qui peuvent se faire. Donc, il faut appeler chez Kéroul 514-252-3104. Pour ceux qui veulent aller voir le site web de La Route Accessible, c'est simple, larouteaccessible.com. Sinon, vous pouvez aller pour les informations générales sur le site web de Kéroul. KEROUL.QC.CA.
Pour arriver à faire ce type de guide, et surtout si on parle de site web interactif, quel partenaire vous allez chercher? Est-ce que c'est vous qui faites tout le travail de défrichage en premier, ou on va vraiment vous voir et on dit « moi, je veux être dans la route accessible ».
Intégrément. Au début, là, ça a été très difficile, je vous dirais. Pour la première édition, de convaincre les gens qu'il y avait une pertinence, qu'il y avait un intérêt de la part des personnes qui ont des limitations à voyager, etc. La première édition, on a travaillé fort pour avoir quelques régions impliquées et quelques établissements. Avec le temps, on a maintenant des appels à l'occasion d'établissements qui disent « ben moi, j'ai entendu parler de la route accessible, je voudrais en faire partie. Comment je peux en faire partie? » Et ensuite, pour vraiment réussir à faire un site web, à faire les évaluations, etc., c'est une amas d'implication de différents organismes. Tourisme Québec nous aide financièrement. Les régions touristiques aussi contribuent un peu financièrement. Et sinon, c'est vraiment du bouche à oreille aussi là, pour ce qui est d'avoir de nouveaux établissements.
Est-ce qu'il y a une ouverture au niveau des bureaux touristiques et même de Tourisme Québec? Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui s'est développée avec les années grâce à la route accessible?
On a définitivement, c'est une belle porte d'entrée, autant pour le développement ici que pour le développement à l'international. Je vous avoue qu'on fait beaucoup de jaloux à l'international. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour savoir « mais comment vous avez fait ?» pour qu'ils puissent eux-mêmes le faire là, dans leur propre région, pays.
Bien, on continue. On est fiers de cette jalousie créée à l'international. Félicitations pour cette nouvelle édition de La Route accessible. Isabelle Ducharme, présidente de Kéroul, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
C'est ce qui met fin à notre programme. Je remercie mes invités, Isabelle Ducharme, Laurence Parent du comité du symposium Invitation au mouvement Concordia, Nicolas Saint-Pierre, directeur général de MIRA. Je remercie mon équipe technique à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.